Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on fait une sorte de post-scriptum à notre série sur l'extractivisme, une série qui aurait pu continuer encore très longtemps. Olivier Petitjean, à mesure qu'on travaillait sur cette série sur l'extractivisme qu'on a proposée tout au long du mois de février à nos auditeurs, il apparaissait clairement que l'élément qu'on retrouvait pratiquement à chaque fois, c'était l'eau. Et il me semblait qu'il était important de faire ce lien entre eau et extractivisme. Et voilà, le hasard faisant bien les choses, que vous publiez un rapport précisément sur cette question. Alors ce rapport s'appuie beaucoup sur différents articles que vous ou d'autres ont publiés sur votre site multinational.org, sur lequel il y a énormément d'informations qui concernent la vie des multinationales, que ce soit celle de l'énergie, de l'eau ou de beaucoup d'autres domaines. C'est un rapport que vous avez écrit suite à une demande ou une invitation de France Liberté, la fondation Daniel Mitterrand.
Donc c'est un rapport en fait qui n'est pas publié, qui sera publié au mois d'avril. Mais la plupart de la substance, effectivement, comme vous l'avez dit, est contenue dans les articles, dans des articles qu'on a déjà publiés. Donc effectivement, cette thématique de l'eau, c'est quelque chose qu'on, à mesure qu'on était amené à enquêter, à travailler sur des projets extractivistes de divers types, qu'il s'agisse de gaz de schiste, de pétrole ou de mines, c'était une thématique qu'on voyait apparaître de manière un peu systématique. Dans certains cas, c'était vraiment clairement au premier plan. Donc on pense au gaz de schiste en particulier quand c'est du gaz de schiste dans des régions semi-arides ou arides, comme en Algérie ou en Argentine, dans le sud de l'Argentine, ou en Australie. Mais même n'importe quel projet extractiviste, il y a toujours une dimension de l'eau, problématique relativement à l'eau, parce que l'eau, en fait, on peut dire que c'est la première ressource qu'utilisent les industries, que ce soit en matière de mine ou d'extraction, pour différents usages. Donc ça peut être pour l'extraction elle-même et la fracturation hydraulique, c'est le cas par excellence, mais il y a d'autres exemples, et surtout pour la transformation des minerais. Alors, comme je disais, c'est une thématique qu'on voit systématiquement. Effectivement, France Liberté, donc il y a une ONG qui travaille beaucoup sur l'eau et beaucoup sur ce qu'ils appellent le droit des peuples, c'est-à-dire les droits des peuples face aux multinationales ou face aux les conflits entre communautés traditionnelles, indigènes ou traditionnelles et les grandes entreprises, a lancé cet appel à projet il y a 18 mois, qui était destiné à la base à faire des projets de terrain pour travailler sur cette notion d'eau et d'industrie extractive, pardon, et notamment sous l'angle de cette notion de droit à l'eau, sur laquelle on va peut-être revenir. Mais la question, c'est dans quelle mesure le droit à l'eau et la notion de droit à l'eau qui est reconnue au niveau international, au niveau de l'ONU, peut aider ces communautés face qui sont confrontées à des projets extractivistes ou des multinationales. Alors nous, on est des journalistes, on fait pas du travail de terrain proprement parlé, mais on leur a proposé de faire effectivement une série d'articles et d'enquêtes sur divers cas qui portent sur divers continents. Donc on a fait des articles sur l'Europe, sur beaucoup sur l'Amérique latine, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de conflits relatifs à l'eau et à l'extractivisme, et l'Amérique du Nord, l'Australie, et qui parlent de différents types d'industries extractives. Bon, on s'est cantonné aux mines, aux carrières et pétrole et au gaz. Donc on a réalisé ces enquêtes, soit nous-mêmes, soit en travaillant avec des spécialistes ou des journalistes sur place. Et effectivement, ce rapport qui va être publié dans quelques semaines, c'est le résultat ou un peu la synthèse de tout le travail qu'on a fait au cours de ces mois écoulés.
Alors, qu'est-ce qui fait que l'eau se retrouve tellement au cœur de cet extractivisme? On va peut-être redire en deux mots ce que c'est que l'extractivisme, mais surtout, j'aimerais que vous m'expliquiez comment et pourquoi tous ceux qui se penchent sur ce sujet sont très rapidement alertés, justement, sur cette question de l'eau.
C'est parce que, comme je l'ai dit, les industries extractives utilisent beaucoup d'eau et affectent l'eau, les ressources en eau, à une échelle vraiment considérable. Et la deuxième raison, c'est que les projets extractivistes, et particulièrement en ce moment où on a ce processus historique où les multinationales vont toujours plus loin, où elles sont amenées à faire des mines toujours plus grandes, ou utiliser des technologies de plus en plus sophistiquées et risquées, comme la fracturation hydraulique par exemple. Cet effet sur les ressources en eau, il a tendance à s'accroître, et il a tendance à toucher des régions où auparavant les multinationales n'allaient pas forcément, justement, et une des raisons pour lesquelles elles n'allaient pas, c'est qu'il n'y avait pas assez d'eau pour travailler. Alors, pourquoi les mines utilisent l'eau, comme j'ai commencé à le dire, ou les mines ou les forages pétroliers ou gaziers utilisent l'eau? Ils l'utilisent à différents niveaux. Ils sont souvent amenés à en pomper beaucoup parce qu'ils l'utilisent soit pour extraire le minerai ou le pétrole ou le gaz, soit pour nettoyer, transformer la substance qu'ils extraient. Et ensuite, cette eau qu'ils utilisent se charge de substances toxiques et polluantes. Et ensuite se pose toute la question de ce qu'ils font de ces eaux usées. Donc malheureusement, dans la plupart des cas, après un traitement nul ou sommaire, elles se retrouvent dans la nature. Dans beaucoup de cas, elles se retrouvent stockées dans des bassins ou ce qu'on appelle des barrages miniers, qui sont plus ou moins solides, plus ou moins pérennes, et qui peut-être des années auparavant, et on l'a vu à plusieurs reprises au cours des derniers mois, peuvent s'écrouler et on voit ces eaux toxiques se répandre dans les fleuves. Et dans certains cas, elles sont réinjectées dans le sous-sol, ce qui pose aussi des problèmes de pollution potentielle des nappes phréatiques.
N'allez pas trop vite, Olivier Petitjean. Vous avez déjà brossé beaucoup de sujets qui sont en soi des thèmes qu'il convient d'approfondir. Il y en a d'autres d'ailleurs qu'il faudrait rajouter, que vous n'avez pas encore évoqués, comme les conflits extrêmement importants auxquels tout ça donne lieu depuis plusieurs années maintenant. Mais si on revient sur votre première affirmation, c'est qui veut que les industries extractives soient très fortes consommatrices en eau. Moi, je trouve que ça vaut la peine de citer quelques chiffres. Il y en a un que vous citez. Bon, j'imagine que c'est le record, toute catégorie, mais il est quand même suffisamment ahurissant pour mériter d'être entendu. C'est cette mine au Mexique. Alors, je ne sais plus, mine de quoi, d'or, je crois, je ne sais plus. Une mine qui utilise 418 millions de litres d'eau par jour.
Oui, effectivement, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas forcément le record du monde. Beaucoup de mines, surtout des énormes mines comme celle-ci, consomment de manière routinière et quotidienne un peu partout dans le monde des millions de litres d'eau tous les jours. En l'occurrence, une mine comme celle-ci, il y a des problèmes spécifiques pour les mines souterraines qui utilisent de l'eau et qui se forcent sous la terre et contaminent les nappes phréatiques. Mais les mines comme celle-ci, un peu toutes les mines, elles extraient la roche, que ce soit sous terre ou à la surface de la terre, et ensuite elles ont toutes besoin de nettoyer cette roche et de la traiter pour en extraire le minerai qu'elles recherchent, parce que évidemment la roche, elle contient qu'une teneur de minerai faible. Et faible, des fois c'est très faible, des fois c'est moins d'1% de minerai à l'intérieur de la roche. Et donc pour extraire ces minerais, elles utilisent beaucoup d'eau, mélangé à des produits chimiques, en l'occurrence pour l'or, c'est souvent du cyanure ou des substances chimiques proches du cyanure, pour traiter cette roche et en extraire un minerai qui soit plus enrichi avec une teneur beaucoup plus forte. Ça peut être 10%, ça peut être plus.
Et de fait, vous dites que toutes les industries extractives ont besoin de beaucoup d'eau dans ces quantités, plus, moins, mais en tout cas, quel que soit le minerai ou la matière première qu'on va chercher, il faut énormément d'eau. Cette eau, si on reste sur le Mexique, où est-ce qu'on la trouve? Il y en a beaucoup de l'eau au Mexique, c'est quand même assez curieux.
Tout est relatif à la région. Il y a des régions, effectivement, où il y a énormément d'eau, et même des millions de litres d'eau extraits ne changent pas forcément grand-chose à l'hydrologie et au débit des fleuves, si les populations alentour ne sont pas trop élevées et elles-mêmes n'extraient pas d'eau. Le problème, c'est quand on est dans des régions où il n'y a pas seulement une mine, où il y a des centaines de mines et d'autres formes d'activités industrielles qui consomment également de l'eau, comme l'agriculture industrielle, par exemple, ou les usines, diverses usines de divers types. Et en Mexique, on se trouve un peu dans beaucoup de régions, justement dans ce cas de figure, où il y a non seulement des mines qui utilisent de l'eau, il y a des barrages qui retiennent de l'eau pour fournir de l'énergie, pour alimenter ces mines et d'autres usines. Il y a des usines, y compris des usines d'eau en bouteille, qui extraient de l'eau. Il y a des usines de Coca-Cola et autres qui, pareillement, utilisent beaucoup d'eau. Il faut plusieurs litres d'eau pour faire un litre de Coca-Cola. Et donc, c'est tous ces effets cumulés qui finissent par avoir un impact sur à la fois l'équilibre hydrologique et environnemental de la région et finalement, in fine, souvent sur l'accès à l'eau des populations. Soit parce qu'il n'y a plus assez d'eau, soit parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour diluer toute la pollution et les contaminants qui sont liés à ces activités et donc où l'eau qui existe devient non potable.
Alors on peut peut-être citer un autre chiffre que j'ai relevé dans tous les articles de multinational.org, le fait qu'il y a 9 millions de Mexicains qui n'ont pas accès à l'eau.
Oui, alors le Mexique, effectivement, on a travaillé sur ce cas particulier qui est intéressant. C'est un pays qui a énormément libéralisé le secteur de l'eau, non seulement la fourniture de l'eau potable et de l'assainissement dans les villes, mais aussi l'accès des entreprises à l'eau pour leurs activités. Et effectivement, en ce moment, on parle beaucoup de traités de libre-échange transatlantique, mais comme on sait, le Mexique, les États-Unis et le Canada ont signé dans les années 90 un autre traité de libre-échange qui est un peu une préfiguration de ce traité transatlantique, dont le traité transatlantique est une extension, disons.
C'est l'ALENA dont vous parlez.
L'ALENA, voilà, c'est ça. Et donc dans ce cadre-là, un peu à la même période, pour attirer les entreprises américaines au Mexique, donc le Mexique a rendu possible de mettre en place des concessions qui, en gros, donnent aux entreprises, comme je disais, Coca-Cola ou Walmart pour faire des produits qui sont ensuite vendus dans les hypermarchés américains, Nestlé ou des barrages des entreprises minières, d'extraire des millions et des millions de litres cubes d'eau. Et effectivement, ça et les effets du manque d'assainissement, disons, enfin du manque de traitement des eaux usées des villes et les effets du changement climatique font que la disponibilité de l'eau, on en parlait il y a un instant au Mexique, ne fait que s'aggraver. Alors que théoriquement, le Mexique devrait être globalement un pays riche en eau, c'est en train de devenir, et à grande vitesse, un pays très pauvre en eau à cause de ça.
Ça signifie, Olivier Petitjean, que si l'eau se retrouve au cœur des problématiques de l'extractivisme, il y a aussi une forme d'extractivisme de l'eau, tout simplement.
Extractivisme, mais aussi, de manière immanquable, un extractivisme de l'eau, au même titre que d'autres activités comme industrielles ou agricoles, comme je l'ai dit. Mais quand on touche... Enfin, il y a deux aspects. Quand on parle d'eau, il y a les ressources dites renouvelables, qui sont essentiellement les eaux de surface ou les nappes phréatiques qui se rechargent très vite. Et là, la problématique, c'est plutôt le niveau d'extraction et éventuellement la pollution qui affecte ces ressources. Et ensuite, on a des aquifères, des nappes phréatiques qui sont non renouvelables. C'est-à-dire, c'est par exemple les nappes phréatiques qui sont sous le Sahara algérien, qui ont été remplies il y a des milliers, des milliers, des milliers d'années à l'époque où le Sahara était une forêt pleine d'animaux. Et qu'effectivement, là, on est confronté à une problématique un peu différente qui est ces ressources ne sont pas renouvelables. C'est-à-dire, si le gouvernement algérien et les entreprises pétrolières décident de faire du gaz de schiste dans le Sahara algérien, et comme on sait que le gaz de schiste, lui aussi, consomme des millions de litres d'eau pour chaque puits, ça veut dire que ces aquifères, ils seront épuisés assez rapidement.
Puisque vous parlez du Sahara, vous pourriez peut-être aussi dire deux mots sur le Niger et l'uranium français.
Au Niger, on a un autre exemple de pays qui n'a pas beaucoup d'eau, d'autant plus que les mines d'uranium sont situées dans le nord du pays, qui est dans le Sahara. Et Areva, qui exploite deux mines d'uranium depuis les années 60 et surtout 70. Et donc là, on a un exemple de mine souterraine, c'est-à-dire que pour extraire de l'uranium, Areva d'abord a dû vider les sous-sols qui contenaient de l'eau et relâcher dans la nature de l'eau qui était contaminée par l'uranium. Et pour ces opérations, depuis les années 70, Areva utilise de l'eau d'un aquifère, d'une nappe phréatique qui est à quelques dizaines de kilomètres et qui est en train, comme on vient de l'évoquer, son niveau est en train de baisser régulièrement et va bientôt atteindre un niveau l'épuisement.
Il n'en reste plus qu'un tiers, je crois.
Voilà, d'après ce qu'on sait, mais c'est un peu un problème systématique, si on n'est pas... On manque de connaissances dans le domaine de l'eau. Et cette eau sert à alimenter les villes, donc Agadez en particulier, qui sont dans la région. Et l'autre problème avec ces mines, c'est qu'en forant toujours plus loin dans le sous-sol, et c'est un problème qu'on retrouve également dans toutes les mines souterraines, les mines sont amenées à rencontrer des nappes phréatiques. Et pareil, il y a des effets de contamination de l'eau. Et donc, dans le cas d'Agadez et d'Arlit, qui est la ville encore plus proche de Mines d'Areva, il y a eu des tests indépendants qui ont été faits, notamment par la CRIRAD, au cours des années 2000, qui ont montré qu'il y avait des taux de contamination à l'uranium qui étaient explosifs, c'est-à-dire vraiment des centaines de fois supérieurs à la norme de l'Organisation mondiale de la santé.
Si on revient sur Terre, Olivier Petitjean, vous avez parlé là beaucoup des aquifères, des nappes phréatiques, fossiles ou non, mais il y a aussi, vous les avez à peine évoqués, tous les cours d'eau qui sont... affectés directement. Et là aussi, les chiffres sont astronomiques.
Donc effectivement, les mines privilégient généralement, quand c'est possible, les extractions dans les nappes phréatiques. Mais effectivement, quand il n'y a pas de nappes phréatiques, elles doivent prélever dans les cours d'eau. Il faut dire que différents usagers prélèvent de l'eau dans les cours d'eau. Et quand on prélève beaucoup d'eau dans les cours d'eau, ça se voit beaucoup plus. Les gens le voient plus que quand c'est dans les nappes phréatiques. Donc, à une exception près sur laquelle je vais revenir immédiatement, Je ne connais pas vraiment d'exemple où des cours d'eau se soient littéralement asséchés en raison d'activités minières. Ne serait-ce que parce que malheureusement, il y a des milliers d'autres usagers qui extraient énormément d'eau des cours d'eau. Quand on parle du Colorado qui se vide, c'est aussi à cause des villes et à cause de l'agriculture. Mais en général, par différence aux nappes phréatiques, les cours d'eau sont mieux protégés par les gouvernements. Parce que justement, c'est plus géré comme un bien public. Mais il y a une exception qui est le Chili. Parce que le Chili, sous la dictature Pinochet, le régime Pinochet, donc qui se voulait se comporter comme un bon élève du néolibéralisme dans sa version la plus pure, a décrété la propriété privée de l'eau, ce qui signifie que n'importe qui ou presque peut décider d'acheter les droits sur l'eau d'un endroit. Et c'est évidemment les entreprises minières dans le nord du Chili, où il n'y a pas beaucoup de monde, ont beaucoup plus d'argent, de puissance financière, de poids politique que les petits villages. Sur le bord des Andes, et donc il y a beaucoup d'exemples où on a vu des villages qui ont vu leur cours d'eau s'assécher littéralement parce qu'il y avait une entreprise minière qui était un peu plus haut et qui avait besoin de l'eau pour sa mine. Là, on parle des effets vraiment éclatants, visibles, un cours d'eau qui s'assèche, mais malheureusement, le problème, c'est plutôt les effets invisibles. Et c'est la baisse progressive du débit des cours d'eau à long terme et toutes les conséquences que ça peut avoir. Sur tous les écosystèmes, parce que l'eau, c'est vraiment la base de la vie des écosystèmes et des espèces animales et végétales qui y vivent. Et il y a les effets de la pollution, qui sont non plus souvent, dans certains cas c'est visible, dans certains cas, les eaux d'un fleuve vont devenir oranges. Impossible de nier qu'il y ait une pollution parce qu'il y aura une fuite de produits chimiques, mais dans beaucoup de cas elle est invisible et on sent les effets, soit de manière très diffuse, soit à très long terme. Le problème, comme je disais, avec les cours d'eau, c'est quand il y a plusieurs activités extractives ou un grand nombre d'activités extractives qui se déroulent en même temps. Une des régions du monde dont on a traité, qui est vraiment un exemple terrible, c'est le Canada et les sables bitumineux. Parce que le Canada, c'est un pays riche, c'est le pays le plus riche en eau du monde. Et où, par rapport à la population, on pourrait penser qu'il est possible de développer des activités extractives sans qu'il y ait des conséquences trop néfastes sur la santé de l'environnement, des cours d'eau et des gens. Mais dans l'Alberta, donc il y a l'exploitation des sables bitumineux dont on parle un peu quand même, notamment en raison de ses impacts sur le climat. Donc c'est des bitumes qui étaient cachés sous des zones humides, plein de pétrole, et donc il s'agit d'extraire ce pétrole de ces bitumes. Mais en fait, on parle un peu moins, mais il y a aussi beaucoup de fracturation hydraulique pour du gaz et du pétrole de schiste dans la région, plus beaucoup d'autres effets comme des mines, y compris de charbon, des barrages, et les effets du changement climatique notamment la fonte des glaciers dans les rocheuses, qui menacent toutes les ressources en eau. Et ce qui fait que même un pays riche comme le Canada, l'industrie pétrolière commence à se dire qu'à court terme, dans 10 ans ou dans 20 ans, à l'échelle de l'environnement, c'est à court terme, ils pourraient se retrouver face à une pénurie d'eau, même au Canada, même dans ce bassin. Donc c'est dans le bassin de l'Athabasca, qui est un immense fleuve, qui ensuite, à travers une série de deltas terrestres et d'autres fleuves, va jusqu'à l'océan Arctique.
Ce qui est certain, Olivier Petitjean, c'est que dès aujourd'hui, pratiquement les deux tiers de ces zones humides ont disparu, et avec elles toute la faune, la flore, les poissons, les insectes, les caribous, tous les mammifères. Enfin, cette zone, aujourd'hui, n'est plus humide, c'est juste un désert fracturé.
Tout à fait. Et là, on touche à un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, qui est, je pense, aussi extrêmement important, c'est que les mines, non seulement, et les activités pétrolières comme les sables bitumineux, non seulement utilisent de l'eau pour leurs activités, mais surtout peut-être, ou en tout cas de manière encore plus profonde, elles contribuent souvent à détruire des lieux ou des zones humides ou des glaciers ou des... Bref, tout le système hydrologique tel qu'il existait, donc à détruire la base même de la circulation de l'eau telle qu'elle existait. Alors on vient d'évoquer l'exemple des sables bitumineux. Effectivement, non seulement les sables bitumineux utilisent beaucoup d'eau, mais ils ont détruit des écosystèmes humides qui étaient essentiels à la recherche des aquifères et donc qui compromettent à moyen terme et à long terme le cycle hydrologique tel qu'il existait dans cette région.
Les glaciers que vous avez évoqués ?
Il y a un exemple très connu qui est un projet de mine d'or, de barrique gold, qui se situe au sommet des Andes, à la frontière entre l'Argentine et le Chili, et qui effectivement se situe à un endroit où il y a des glaciers qui sont déjà affectés dans une certaine mesure par le réchauffement climatique, qui a été plusieurs fois retoqué par la justice, notamment au Chili, parce qu'effectivement ça détruit la source de cours d'eau qui descendent des côtés des Andes, avec des conséquences incalculables sur tout l'aval. Il y a un autre projet de mine d'or au Pérou qui s'appelle Conga, qui, pareil, de la même manière, se situe en haut d'une montagne et qui aurait pour effet systématique d'avoir des conséquences néfastes, non seulement pour les communautés qui vivent déjà dans les montagnes et qui s'opposent déjà à ce projet de mine, parce que là, c'est pas compliqué, ça va tout simplement raser tous les petits lacs et les étangs sur lesquels ils comptaient pour trouver leur eau auparavant, mais ça risque aussi d'avoir des conséquences bien en aval, et les gens s'en rendent pas forcément compte. On pourrait dire qu'il y a deux grandes sources, hydrologiquement parlant, je simplifie, je suis pas un scientifique, qui permettent de capter l'eau et de recharger les aquifères et recharger les rivières, c'est les montagnes. Donc tous les projets miniers ou extractivistes en montagne, ils sont très dangereux de ce point de vue. Et l'autre question dont il faut parler, c'est les forêts. Parce que souvent, pour faire une mine, et notamment en Amérique du Sud, ça veut dire raser des kilomètres carrés de forêts, les détruire complètement. Et quand on détruit les forêts, ça veut dire que ça attire plus l'eau, ça retient plus l'eau dans le sol, et donc de la même manière, les conséquences hydrologiques sont terribles. On peut donner un autre exemple qui est un peu dans un pays du Nord, disons, qui est aux États-Unis, où dans les Appalaches, il y a une technique qui est utilisée à peu près que là-bas d'extraction du charbon qu'on appelle le mountain top removal. Ça veut dire
décapiter les montagnes.
Voilà, décapiter les montagnes. Et en gros, ça veut dire on fait exploser la dynamite, le sommet des montagnes. Parce que le charbon se trouve sous le sommet des montagnes. Et donc, de fait, quand on détruit le sommet des montagnes, ça veut dire qu'il n'y a plus de rivière derrière. Et il y a une étude qui est sortie, et ça fait au moins 10 ans. Et donc, c'est bien pire depuis lors, où qui estimait déjà qu'il y avait déjà des milliers de kilomètres de rivières qui avaient disparu sous les rochers ou parce que ça avait été asséché.
Olivier Petitjean, le portrait que vous avez dressé est déjà assez effrayant. Il me semble maintenant qu'il faut le voir du côté des personnes qui sont affectées. Ça peut être les riverains, ça peut être les gens qui vivaient d'un certain écosystème, parce que justement, une des caractéristiques de l'eau, c'est d'être cet élément qui relie tous les autres et qui est au cœur de la vie, en fait.
Donc effectivement, les impacts sur l'eau, on le voit de manière systématique, c'est une question de vie ou de mort. C'est quelque chose qui a été dit à propos de l'Algérie, où effectivement, c'est littéralement une question de vie ou de mort.
Et c'est d'ailleurs, vous le soulignez, la première fois qu'il y a un conflit social aussi important en Algérie.
La première fois qu'il y a un conflit environnemental aussi important. Donc, pour rappeler un peu les faits, à partir de la toute fin 2014 et surtout au début de l'année dernière, l'année 2015, il a été annoncé publiquement que des forages tests de gaz de schiste auraient lieu dans le sud algérien, à côté de la ville d'Insala. Et effectivement, ça a suscité un mouvement social auquel personne ne s'attendait vraiment, de la population locale, refusant le gaz de schiste. Et beaucoup de gens avec qui on a parlé, donc des Algériens qui vivent localement ou des exilés algériens en France, nous disaient que c'était la première fois qu'il y avait un conflit environnemental en Algérie. Il y a déjà eu des conflits sociaux. Mais jusqu'à présent, la question des hydrocarbures, comme c'est une source de richesse, de revenus pour le pays, et c'est aussi un symbole fort d'indépendance pour l'Algérie, cette question de la maîtrise de son gaz et de son pétrole, avait toujours fait plus ou moins consensus, et c'est la première fois que c'était remis en cause à propos du gaz de schiste. Mais ça, c'est un exemple extrême, mais je pense qu'on le retrouve un peu partout. C'est pas toujours dit de la même manière, mais surtout quand on parle de communautés, indigènes peut-être, mais plus largement de communautés locales traditionnelles dans les pays comme le Pérou, le Chili ou ailleurs, qui vivent près de la nature, disons, beaucoup plus près que nous dans les grandes villes comme Paris. La question de l'eau, c'est une importance vitale dont on se rend pas vraiment compte. Et ça l'est d'abord parce que c'est de l'eau de boisson, donc il y a toute la question de la santé derrière. Et c'est ensuite l'eau pour ces populations, c'est aussi la source de leur nourriture. Soit parce que c'est les agriculteurs et ils ont besoin d'eau pour faire pousser leurs légumes, soit parce que c'est des pêcheurs et ils ont besoin de cours d'eau en bonne santé, où il y a des poissons en bonne santé et qui ne sont pas pollués pour manger. Et donc à tous ces niveaux, l'eau est affectée de diverses manières. Donc à la fois parce qu'il y a moins d'eau, parce qu'elle est pompée de manière massive, à la fois parce qu'elle est polluée, à la fois parce que les cours d'eau bougent ou disparaissent, ou parce que l'environnement change.
Mais ça peut aller très loin dans l'espace et dans le temps.
Oui, et ça c'est l'autre spécificité de l'eau, c'est que l'eau ça bouge. Et qu'effectivement les conséquences, les impacts négatifs, que ce soit en termes de pompage, de surexploitation ou de pollution, ils se transmettent petit à petit en aval. Et donc, En général, la pollution, ça se dilue. Donc ça se sent moins en aval, mais il peut y avoir des incidents majeurs qui font que ces conséquences deviennent tout à coup visibles pour toutes les populations sur des centaines de kilomètres en aval. Et on en a eu des exemples, j'en parlais tout à l'heure, avec la rupture de ce qu'on appelle les barrages miniers. Donc dans plusieurs pays, donc, au cours de l'année écoulée. Donc les barrages miniers, c'est comme je disais, les compagnies minières entassent un peu ces eaux usées issues de l'extraction, ces débris de roches contaminés dans des bassins qui sont retenus par des barrages. Et malheureusement, souvent, d'autant plus quand les mines sont abandonnées et que les entreprises responsables des mines sont parties, ils sont mal entretenus. Et cette année, on a eu plusieurs exemples où des barrages se sont effondrés. Donc le plus récent, c'était au Brésil, la catastrophe de San Marco. Donc c'est un barrage à côté d'une mine de fer dans le Minas Gerais qui s'est effondré. Et les boues toxiques sont parties tout en aval du Rio Doce, qui est un fleuve brésilien, jusqu'à l'océan. Et qui a donc affecté non seulement la biodiversité, mais l'accès à l'eau potable de millions de personnes. Et le gouvernement brésilien et les entreprises concernées sont actuellement en conflit juridique pour savoir qui va payer l'ardoise de cette catastrophe qui est de plusieurs milliards de dollars. Mais il y en avait eu quelques mois auparavant, il y en avait eu un aux États-Unis qui est intéressant parce que là c'était une mine abandonnée dans le Colorado. Et en fait, c'est l'Agence américaine de l'environnement qui a été voir, parce qu'on leur avait signalé qu'il y a une petite fuite de substances toxiques. Et ils ont fait une erreur, malheureusement une erreur terrible, où tout à coup le barrage s'est effondré à cause d'eux, et ça s'est parti dans tout le bassin du fleuve Colorado. 4 États américains ont décrété l'état d'urgence, la nation Navajo a aussi décrété l'état d'urgence. Et ce que disent les observateurs, c'est qu'en fait, on a peut-être échappé au pire, parce que c'était une mine... relativement petite, alors qu'il y avait des mines beaucoup plus grandes, qu'il y avait des barrages avec des résidus miniers beaucoup plus grands, dans la même région, et qui, de la même manière, qui sont laissés à l'abandon, et que si ça avait été un plus gros barrage, les conséquences auraient pu être catastrophiques, beaucoup plus catastrophiques en tout cas.
Oui, parce qu'elle était déjà pas mal. Justement, moi je trouve que c'est un des sujets d'étonnement, Olivier Petitjean, c'est que toutes ces catastrophes dont vous parlez, ce ne sont pas des menaces. Elles se sont déjà produites, et plus d'une fois. Des populations ont été touchées. De l'eau potable est devenue impropre à la consommation. Des pans entiers de montagnes ont disparu, des rivières, des nappes entières ont été souillées. Et vous le disiez, c'est une question de vie ou de mort. Donc, face à ça, j'aimerais que vous nous parliez peut-être un peu plus des conflits que ça suscite. D'une part, pour qu'on voit la façon dont des groupes peuvent se défendre, ou ne peuvent pas d'ailleurs, et puis surtout, est-ce que ça influe sur la situation? Est-ce que, je sais que par exemple, on entend très souvent dire, mais tout ça ce sont les mines du passé, aujourd'hui les mines sont propres, aujourd'hui on a des nouvelles techniques qui permettent, etc., etc. Donc j'aimerais maintenant qu'on voit comment cette situation peut évoluer, si elle évolue.
Tout ça se situe en arrière-plan un problème généralisé qui est l'influence des multinationales et leurs relations privilégiées avec les gouvernements, notamment dans les pays du Sud, mais pas seulement, et les élus locaux, et l'argument économique qu'elles peuvent avancer, notamment vis-à-vis des gouvernements. Souvent, les mines, ceux qui sont affectés les plus directement dans les mines, c'est pas les citoyens qui ont le plus de pouvoir politique dans un pays comme le Pérou, le Niger ou bien d'autres. C'est des communautés, comme je disais, des communautés indigènes, des communautés locales traditionnelles. Elles n'ont pas la même capacité d'influence sur l'État que les élites dans les capitales et les intérêts économiques. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça continue à se faire.
Si ce n'est qu'aujourd'hui, on voit bien que cette fringale de minerais, elle s'étend largement au-delà des zones traditionnellement concernées, puisqu'on a vu qu'en France, par exemple, il y a énormément de projets de mines. Mais il y en a aussi aux États-Unis, vous les avez cités, il y en a en Australie, il y en a au Canada.
Malheureusement, on le voit systématiquement en matière d'eau et de pollution de l'eau et de surveillance, disons, des activités des entreprises extractivistes et de leur impact sur l'eau. On est systématiquement, et c'est vrai aussi bien dans les pays comme le Pérou qu'en France ou aux États-Unis, face à un manque de savoir. Et ce manque de savoir, il vient de plusieurs raisons à la fois. D'abord, les entreprises elles-mêmes n'aident pas à ce que les gens, les gouvernements et encore moins les simples citoyens locaux sachent ce qui se passe. Soit elles font elles-mêmes les études et les gardent sous le coude autant que possible, soit, et ce qui est le cas le plus fréquent, elles préfèrent ne pas... qu'on n'étudie pas, par exemple, la qualité de l'eau, on teste pas toutes les substances, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème et personne ne verra les problèmes.
Quelques exemples seraient les bienvenus, peut-être, Olivier Petitjean. Tout à l'heure, vous nous parliez de ce projet en Algérie. C'est une société qu'on connaît bien, ici, qui est impliquée dans ce projet de gaz de schiste. C'est Total.
Alors, c'est pas officiel, comme c'est l'Algérie, il y a beaucoup de... beaucoup d'opacité, donc on soupçonne très fortement que effectivement Total est impliqué dans des projets, pas forcément de gaz de schiste proprement dit, mais d'un autre gaz non conventionnel qui requiert lui aussi la fracturation hydraulique, qui est ce qu'on appelle le tight gas. Le problème, pour prendre l'exemple du gaz de schiste, c'est, disons, pour le montrer, c'est qu'une entreprise comme Total dira plusieurs choses. On lui dira, les gens localement disent... on veut pas de gaz de schiste parce que ça va polluer l'eau, il y aura plus d'eau dans les nappes phréatiques, etc. Une entreprise comme Total et le gouvernement algérien auront une stratégie où ils diront plusieurs choses. Ils diront, d'une part, ils nieront les effets de la surexploitation de l'eau en disant, mais non, comme c'est pas surveillé, il n'y a pas moyen de savoir, de dire, ah ben, parce que Total a foré à tel moment, à tel jour, la nappe phréatique a baissé de 10 cm. Ça, c'est malheureusement, comme il n'y a pas de supervision, ni du niveau de la nappe phréatique, ni de ce que fait Total avec un gendarme derrière le dos de Total. C'est très dur de mettre en relation directe ce qui se passe sur dans un aquifère et ce que fait une entreprise. D'autre part, ils diront, de toute façon, c'est pas vrai que le gaz de schiste et la fracturation hydraulique, ça crée des problèmes de pollution. On a nos études financées par l'industrie qui montrent qu'il n'y a pas de problème. Et on fera venir des experts américains ou australiens pour dire à tout le monde, assurer tout le monde qu'il n'y a pas de problème. Et beaucoup d'autres études qui disent qu'il y a des problèmes, mais ils choisiront de montrer celles qui disent qu'il n'y a pas de problème. De la même manière, comme il n'y aura pas eu, et ça c'est on le retrouve dans chaque cas, il n'y aura pas eu vraiment d'études de la qualité de l'eau à la base, de ces nappes phréatiques. Ils diront, ah oui, ben on retrouve cette substance toxique ou radioactive, mais c'est naturel, c'est pas à cause de nous, ça vient de...
Elle était déjà là.
Voilà, elle était déjà là avant nous. Et ça, c'est, par exemple, quand on a parlé d'Areva tout à l'heure, c'est ce qu'ils disent systématiquement. Voilà, il y a de la radioactivité dans l'eau, mais c'est naturel, c'est pas nous. Et on s'est pas donné les moyens, ou c'est, de toute façon, c'est très difficile, il faut l'avouer. Et c'est pour ça que il vaut mieux une approche basée sur la précaution qu'une approche a posteriori. C'est très difficile de surveiller tout ça parce que c'est l'eau, et notamment quand c'est de l'eau souterraine. Et il y a un manque de chercheurs publics qui puissent être aux côtés des citoyens pour à la fois surveiller l'environnement et l'état de l'environnement et répondre aux arguments des entreprises.
Parce que de fait, vous le disiez, il y a quand même un très grand laxisme des pouvoirs publics vis-à-vis des multinationales. Et en particulier, on pourrait peut-être parler des réglementations, des régulations qui existent, même si elles sont insuffisantes, il y en a. Mais vous dites que finalement, l'exception, c'est lorsque ces réglementations sont suivies d'effets.
Oui, alors effectivement, c'est un constat, on l'a vérifié à propos de l'eau, mais c'est nous, dans notre travail, en tant qu'observatoire des multinationales, on finit par se demander si les multinationales respectent jamais vraiment les règles. Et je dis ça un peu pour plaisanter, et je dis ça pas forcément pour les accuser. Enfin, des fois, elles... C'est impossible de respecter les règles parce que c'est la manière dont les règles sont conçues. C'est-à-dire, de manière générale, quand les autorités publiques autorisent ou non, étudient un projet extractiviste de mine, un projet de nouvelle mine par exemple, comme c'est le cas en France, ou un projet extractiviste, elles demandent ou elles font réaliser une étude d'impact environnemental. Et là, c'est là que ça commence à... Le bas commence à blesser parce que, de manière générale, c'est les entreprises elles-mêmes qui doivent réaliser cette étude, qui la font, ou qui la font réaliser par quelqu'un qu'elles payent, ce qui revient à peu près au même. Et donc l'autorité qui n'a pas les moyens de mener sa propre étude ou qui ne se donne pas les moyens de mener sa propre étude doit donner ou non son autorisation sur la base de cette étude faite par l'entreprise. Dans la plupart des cas, cette étude, elle est extrêmement critiquable parce qu'elle ne tient pas compte. Enfin, elle a une conception très très restrictive des impacts potentiels d'un projet. Alors que comme on l'a vu, et en particulier en matière d'eau, les impacts, ils peuvent se faire sentir à très long terme. Et bien en aval de l'endroit même où a lieu le forage ou la mine. Ensuite, l'autorité de régulation, les pouvoirs publics, ils peuvent dire « Ok, mais à certaines conditions, si vous mettez en place certaines mesures ». Parce qu'effectivement, ils ont vu qu'il y avait un risque pour les ressources en eau. Le problème avec ça, c'est que souvent, elles n'ont pas les moyens de vérifier si ces mesures sont effectivement mises en place. Ou alors, ces mesures ne sont pas respectées, mais bon, elles font rien. Ça arrive souvent. J'ai un exemple en tête qui concerne pas un projet extractiviste, mais c'est un barrage qu'il y a des projets extractivistes, où c'est le barrage de Belo Monte, donc en Amazonie brésilienne, dont on dit, beaucoup de gens pensent qu'il a été construit parce qu'il y avait des ressources minérales tout autour et que ça permettrait d'alimenter en électricité les mines. Et il y a déjà eu un projet de mine qui s'appelle Bellosson, un mine d'or. Et donc systématiquement, plusieurs fois, l'autorité fédérale brésilienne a donné un accord avec des conditions environnementales et sociales. Et systématiquement, l'entreprise responsable de Belo Monte ne les a pas respectées, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à construire son barrage sans problème. Et enfin, un autre problème qu'on a constaté, c'est que les entreprises, une fois qu'elles avaient leurs autorisations, elles étaient en position de force. C'est-à-dire que si elles ne respectaient pas les conditions qui leur sont imposées, comme je viens de dire, ou si elles veulent changer, elles décident « Oh, finalement, on va faire autrement. Finalement, on avait dit qu'on n'avait pas besoin d'eau, mais finalement, on va pomper plein d'eau là. » Le processus pour changer est très facile et il est à l'abri des regards publics. Et ça,
c'est-à-dire qu'on accepte une modification du projet initial par lequel une entreprise s'était engagée à respecter un certain nombre de clauses.
Voilà, en fait, je vais donner un exemple qui est au Canada. On a essayé d'étudier dans le cadre de nos enquêtes un projet qui est mené à bien par Shell avec le soutien de l'entreprise française Veolia, où il disait on va faire une site d'extraction de sable bitumineux, mais qui soit super propre. Et on va recycler toute l'eau qu'on utilise, on va la recycler, la réutiliser, ce sera un cycle fermé, sans impact sur l'environnement. Donc on a essayé de se pencher un peu sur ce que recoupaient un peu ces promesses. Donc on n'a pas pu tout savoir parce qu'évidemment ils disent pas tout et ils sont prompts à faire de grandes annonces, mais bon, savoir ce que ça recoupait exactement, c'est toujours plus difficile. Bon, par ailleurs, ce projet a été abandonné en raison notamment de la chute des cours du pétrole et ça devenait trop coûteux. Mais bon, à l'époque, il n'était pas abandonné. Et ce que nous expliquaient les gens qui suivent un peu cette question, c'est que souvent, les entreprises au Canada qui font des sables bitumineux, elles commencent en disant « Oui, on va utiliser très très peu d'eau quand elles demandent leur licence environnementale. » Donc elles ont leur licence environnementale sur cette base. Et puis 6 mois plus tard, elles disent « Ah, finalement, on se rend compte que maintenant qu'on a commencé à opérer, on se rend compte que l'eau sur laquelle on comptait ou notre technique, elle n'est pas au point. Donc on va utiliser de l'eau de cet aquifère. » Et le problème, c'est que contrairement à la première autorisation qui requiert tout un processus de consultation formelle, des délais, il y a un peu de traçabilité, de transparence. Là, le changement mineur, il est à l'abri des regards du public. C'est l'autorité qui dit oui ou non. Et bon, évidemment, dans 99,9% des cas, elle dit oui. D'autant plus qu'une fois que l'entreprise a sa licence, elle se retrouve en position de force aussi du point de vue où elle peut se retourner contre le gouvernement. Par exemple, en utilisant un traité d'investissement ou un traité de commerce, en disant vous nous expropriez de notre propriété qui est cette licence minière et vous nous empêchez de l'exploiter, etc., etc.
Là encore, vous n'êtes pas en train de faire de la prospective un peu funèbre ou sinistre. Olivier Petitjean, vous parlez de cas qui sont déjà produits.
Oui, c'est une des autres choses qu'on a découvertes, ou redécouvertes, en faisant ce travail. C'est que, bon, on parle beaucoup, d'ailleurs on vient d'en parler de ce projet de traité transatlantique, et en particulier de ce qu'on appelle l'ISDS, qui est donc cette possibilité pour les entreprises, en tant qu'investisseurs étrangers, de se retourner contre un gouvernement qui mettra en place des politiques publiques ou des mesures sociales et environnementales nuisibles à son taux de profit, en gros, pour simplifier. Et ces ISDS, donc, qu'on veut appliquer à l'Europe ou aux États-Unis, ils existent déjà dans le cadre d'autres traités de commerce et d'investissement. On a parlé de l'ALENA, mais surtout dans les traités bilatéraux entre deux pays. Ils sont déjà mis à profit par les entreprises pour poursuivre des gouvernements. Et certains des cas les plus emblématiques, justement, de ces recours d'entreprises contre des gouvernements concernent, justement, la pollution de l'eau par des entreprises minières. Et donc, il y a un cas dont on parle beaucoup, qui est le fait qu'une entreprise canadienne qui s'appelle Lone Pine Resources se soit retournée contre le Québec en utilisant une filiale aux États-Unis en raison de son moratoire de fait sur la fracturation hydraulique. Donc ça, c'est un exemple qu'on utilise beaucoup en France parce qu'effectivement, il y a cette menace en France aussi si un jour on signe le TAFTA.
Il faut préciser les choses, je pense, Olivier Petitjean. Ce qui s'est passé précisément dans ce cas-là, c'est qu'une entreprise a attaqué un État au motif qu'elle avait passé des lois pour protéger l'environnement et la population et que cette loi portait atteinte effectivement aux profits financiers qui pouvaient être escomptés de l'exploitation des gaz de schiste ou autres. Et en fait, ces fameux tribunaux qui vont arbitrer entre des sociétés et des États, ce sera toujours ce type d'arbitrage, c'est-à-dire est-ce que telle loi contrevient aux intérêts d'une entreprise ? Ça sera toujours dans ce cas-là, ça ne sera jamais est-ce que telle entreprise contrevient aux intérêts d'un État.
Oui, c'est ça, c'est une conception de plan plus large, disons, et de plus en plus de ce qu'on peut considérer comme une expropriation. Donc à la base, les traités d'investissement, ça visait à protéger une entreprise ou un investisseur qui s'est fait vraiment expulser sans aucune raison par un État de manière brutale. Mais ça a été interprété sous la pression des intérêts économiques de manière de plus en plus large. Et maintenant, quand une entreprise a une concession, disons, comme donc voilà, Lone Pine Resources au Québec avait une concession, elle dit « je peux pas l'exploiter comme je veux », c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Quelle que soit la raison, même si c'est pour des raisons environnementales très louables, je ne peux pas l'exploiter comme je veux. Ça veut dire qu'on me prive de ma propriété, de mon droit inaliénable à exploiter cette concession. Et donc je peux me retourner contre la province, en l'occurrence, ou un État, et lui réclamer tous les profits que j'aurais pu espérer si j'avais pu exploiter cette concession. Et pour donner un autre exemple, parce que, comme je le disais, c'est justement les exemples les plus emblématiques concernent l'eau. C'est un autre cas très important qui est un recours initié par une société canadienne qui s'appelle Pacific Rim contre le Salvador, le petit État du Salvador en Amérique centrale. Donc le Salvador, c'est un pays un peu comme, de manière encore pire que le Mexique, où il y a beaucoup de mines et qui est vraiment comme c'est un petit État avec déjà fragile du point de vue hydrologique, qui est vraiment miné par la pollution de l'eau et la surexploitation de l'eau. Et donc, en conséquence de ça, le gouvernement salvadorien a mis en place un moratoire sur les nouvelles mines, jusqu'à qu'il y ait un processus d'encadrement qu'ils estiment suffisant pour permettre de nouvelles mines. Et il y a une entreprise qui avait une concession de mine d'or, qui s'est dit « bon, c'est un moratoire de fait, vous nous empêchez d'exploiter cette concession ». Donc, de la même manière, on réclame plusieurs centaines de millions de dollars, correspondant au profit qu'ils pouvaient espérer réaliser. Devant un tribunal arbitral. Donc un tribunal arbitral, c'est trois avocats ou juristes, souvent très proches du milieu d'affaires, qui se réunissent, en l'occurrence à Washington, dans le cadre de la Banque mondiale, ça peut être ailleurs, à La Haye, et qui décident de manière un peu, d'un point de vue strictement économique, et sans tenir compte des questions sociales et environnementales. Qui a raison et qui a tort. Et en l'occurrence, c'est un cas qui est encore pendant.
J'aimerais peut-être qu'on revienne aux populations qui sont donc directement touchées par tous ces problèmes. Derrière chaque litige, il y a vraiment des groupes entiers qui sont menacés de maladies, de morts, de déplacements. Le droit de l'eau, c'est quelque chose d'encore extrêmement flou, bien qu'il y ait eu tout de même des avancées, ça il faut le signaler. En 2010, il y a eu une inscription d'un droit à l'eau par l'ONU.
C'est ça. C'est extrêmement intéressant cette question du droit à l'eau. Donc effectivement, à l'initiative de la Bolivie, et c'est pas un hasard, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a initié un processus pour reconnaître le droit à l'eau parmi les droits humains fondamentaux, et donc qui a été validé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. Alors en Europe, le droit à l'eau, c'est justement beaucoup vu sous l'angle du droit d'accès à l'eau. En France, on a eu tout un débat sur les coupures d'eau, l'interdiction des coupures d'eau, donc sous cet angle-là, et sous l'angle de la lutte contre la privatisation. Donc il y a eu une initiative citoyenne européenne initiée par des syndicats, des associations, qui a été la première initiative citoyenne européenne.
C'est Right to Water.
Voilà, et donc qui s'appelait effectivement Right to Water, droit à l'eau. Donc ça liait vraiment les deux questions dans un contexte plutôt urbain, plutôt lutte contre les grandes entreprises qui contrôlent le secteur de l'eau. Mais à l'origine, si c'est la Bolivie qui a initié ce processus, c'est qu'il n'y avait pas seulement cette composante contre les multinationales de l'eau, contre la privatisation, mais c'était vraiment le droit à l'eau en un sens plus large. Et notamment dans cette région du monde, on en a parlé, notamment au Pérou, mais c'était le cas aussi en Bolivie, en Colombie. Les projets miniers ou les projets extractivistes, ils ont souvent des conséquences directes sur les ressources en eau. Et les premiers pays, ce sont aussi les premiers pays, donc c'est le cas de la Bolivie, c'est le cas aussi de l'Équateur, c'est le cas du Mexique, qui ont inscrit le droit à l'eau dans leur constitution. Malheureusement, aussi bien dans le cas du Mexique, comme on l'a vu, mais que dans le cas de l'Équateur, ça a été plus ou moins remis en cause de fait postérieurement. Mais pour eux, pour ces pays, le droit à l'eau, c'était effectivement très lié au conflit minier.
Ça a été remis en cause par les gouvernements même qui avaient effectivement inscrit ce droit dans leur constitution. C'est le plus sidérant, peut-être.
Tout à fait. Mais ça montrait bien ce qu'ils se sont rendus compte, que, enfin, que en tout cas les entreprises minières ou pétrolières, dans le cas de l'Équateur, qui voulaient opérer dans leur pays, se sont rendus compte que le droit à l'eau et leurs activités étaient totalement incompatibles.
Elles ont su se montrer persuasives.
Voilà, elles ont su se montrer persuasives. Et effectivement, un pays comme l'Équateur, pour le meilleur et pour le pire, reste très dépendant des revenus de l'extractivisme. Bon, le droit à l'eau, est, effectivement, c'est une notion très récente qui a peu de traductions juridiques concrètes, et notamment pas le droit à l'eau au sens large dont je parlais, c'est-à-dire qui est en fait un droit au... C'est plus large que le droit à l'eau, stricto sensu, c'est le droit au territoire le droit... à la santé, le droit à l'environnement en même temps, c'est aussi le droit à l'autonomie alimentaire d'une certaine manière, comme on l'a vu, l'eau c'est tout ça. Et donc je pense que le droit à l'eau, faut le concevoir un peu, je sais pas si ce sera suffisamment parlant, mais de la même manière que les mouvements paysans parlent de souveraineté alimentaire plutôt que de sécurité alimentaire, parce que la sécurité alimentaire ou le droit à l'alimentation, ça peut vouloir dire qu'on reçoit de l'aide alimentaire ou des OGM des États-Unis. C'est la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire non seulement ils ont l'alimentation, mais ils décident de même comment ils l'ont et c'est leur alimentation. Bah, pour l'eau, ça devrait être un peu la même chose, c'est le droit à l'eau, parce que c'est aussi le droit... à l'environnement hydrologique qui soit préservé et qu'on puisse accéder et utiliser l'eau de manière autonome.
Parce que de fait, on a peut-être oublié de préciser, Olivier Petitjean, que les compagnies, les entreprises extractives, assez fréquemment ont l'amabilité de donner de l'eau potable aux populations qui sont touchées. Donc ça peut être 1 litre d'eau par jour et par personne. En tout cas, c'est apporté par camion et ils considèrent que comme ça, ils ont rempli leur obligation de droit à l'eau pour les populations.
Voilà, donc c'est effectivement exactement le cœur du problème. C'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation, et malheureusement, on la retrouve fréquemment, où les entreprises détruisent les rivières, détruisent les systèmes hydrologiques locaux, et ensuite se contentent d'amener un peu d'eau et disent « Ah bah c'est bon, on respecte le droit à l'eau, tout va bien, ils ont assez d'eau à boire ». Là, vous parliez d'un cas qui est terrible. Heureusement, c'est pas dans tous les cas aussi terrible que ça. C'est cette mine en Colombie, El Cerrejón, qui est gérée conjointement par trois grandes entreprises. C'est une mine de charbon. Effectivement, où ils ne donnent 1 litre d'eau par personne et par jour, ce qui est ridiculement peu par rapport aux véritables besoins. Et en plus, si l'on en croit les témoignages des populations locales, l'eau n'est pas potable. Elle est bonne, elle l'utilise pour faire la vaisselle et c'est tout.
J'aimerais peut-être pour... terminer cette émission sans sombrer dans le désespoir, que vous nous racontiez peut-être en quelques mots l'affaire Chevron, qui montre un exemple de lutte menée en tout cas avec beaucoup de force et de dignité.
Donc pour rappeler un peu les faits, c'est à l'origine c'est l'entreprise Texaco qui a été rachetée par Chevron depuis, en rachetant Texaco, Chevron a racheté toutes les responsabilités et le passif de Texaco, qui opérait des puits de pétrole dans l'Amazonie équatorienne, donc dans l'est de l'Équateur, et au cours des années 60 et 70, et qui, d'après tous les témoignages dignes de foi, allait extraire ce pétrole de manière incroyablement sale et sans précaution aucune, et en polluant l'environnement de manière catastrophique, et arrêter ses opérations, si je ne me trompe pas, dans les années 90, en partant et en laissant tout polluer. Et donc les communautés locales se sont battues, pas toujours, souvent pas avec le soutien de leur propre gouvernement, pour obtenir réparation. Et la première tactique de Chevron a été de dire « il n'y a pas de problème, on a vérifié les sols, tout va bien ». Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a une vidéo très édifiante qui a été rendue publique, qui montre des employés de Chevron en train de tester des sols et chercher désespérément un bout de sol qui ne soit pas pollué par le pétrole.
Pour pouvoir le brandir au procès.
Voilà, pour pouvoir l'utiliser dans le cadre du procès. Ensuite, ils ont fait 2-3 nettoyages de fortune. Mais c'est l'argument qu'ils utilisent actuellement, en disant « c'est bon, on a nettoyé ». Alors qu'ensuite, les experts indépendants sont sur place, ont montré que, en fait, ils n'avaient pas du tout nettoyé, que la pollution était bien là. Et donc, les communautés ont initié ce processus juridique qui a fini par aboutir, au bout de diverses péripéties, au niveau équatorien, par une condamnation de Chevron à une amende de plusieurs milliards de dollars. Donc maintenant, cette amende est remise. Enfin, Chevron a toujours refusé de payer et refuse toujours de payer cette amende. Et donc, il y a une bataille juridique qui est devenue internationale, qui se passe un peu dans différents pays où les victimes équatoriennes essayent de faire exécuter la sentence contre Chevron. De l'autre côté, Chevron a initié. On retombe sur nos pattes une processus en arbitrage international contre l'Équateur. Bref. Mais bon, ce qui est intéressant dans le cas de Chevron, c'est qu'effectivement, la démarche des victimes équatoriennes de Chevron, de cette région, elle a toujours été justement de refuser ces petits arrangements dont on parlait de vraiment. Ils ont toujours essayé.
Des arrangements financiers.
Voilà, financiers, dans une optique de droit au territoire, comme je disais. Et ils le disent très clairement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester sur leur territoire. Alors, on n'en a pas parlé, on ne l'a pas évoqué, mais souvent, la conséquence directe de tous les problèmes de pollution et de surexploitation de l'eau dont on parlait, c'est que les gens, ils s'en vont. Et ils s'en vont dans les villes, notamment, et ils vont peupler les bidonvilles des grandes mégalopoles du Sud, au Pérou, c'est Lima, dans d'autres pays, c'est d'autres. Donc, eux, ils veulent rester sur le territoire. Donc, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent, c'est pas... comme c'est souvent la stratégie des entreprises, donner un peu d'argent à tout le monde pour les diviser, eux, ils veulent de l'argent pour la restauration, ce qu'ils appellent la restauration environnementale. Ensuite, ça se déroule à plusieurs niveaux. Il y a les soins de santé, il y a la restauration des cours d'eau, la dépollution, la restauration culturelle avec le soutien aux peuples indigènes qui vivent dans la région. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle ce conflit avec Chevron est devenu aussi majeur et a pris ses proportions, c'est justement que à cause de ça, parce qu'ils étaient vraiment dans une optique collective de restauration. Et ça, c'était vraiment ce qui est inacceptable pour Chevron. Et c'est pour ça que ça prend une telle ampleur et que Chevron a décidé de se battre, comme ils disent, jusqu'à ce que l'enfer soit couvert de glace.
Et ensuite, nous irons les attaquer sous la glace. Voilà. C'est ça qu'ils disent.
Exactement. Parce que ça change tout. Si un jour une communauté est capable de dire à une entreprise « D'accord, vous pouvez faire extraire du pétrole ou ouvrir une mine, mais à condition que quand vous partez, ce soit comme c'était auparavant », ça changera beaucoup de choses. Et pourtant, c'est ce vers quoi on devrait se diriger.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et des informations sur les musiques que vous avez écoutées. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.